je me suis proposé de vous faire une petite intervention sur la question des politiques d'aménagement. Donc on parlait l'immobilier, freins et dynamique. On va continuer sur la question des freins, puisque cet après-midi, les freins, ça sera un peu la conclusion de mon discours, de mon analyse, mais cet après-midi, on parlera des dynamiques financières et on verra aussi comment ça se connaît. Pour l'instant, moi, ce que je me proposais, c'était de vous faire la connexion entre les dynamiques immobilières et les dynamiques foncières. Si vous avez lu mon CV, je suis arrivée moi à l'ADEF, à l'Association des études foncières en 2006, pour succéder à Joseph Combi. L'ADEF a été cofondée par Joseph Combi et Vincent Renard, d'où ma présence d'ailleurs. Ce que je vais vous décrire là, c'est le résultat de l'ensemble des productions qui ont pu être faites par l'ADEF depuis environ une trentaine d'années. Hein. Alors, pour commencer, je souhaitais vous montrer ce petit graphique qui est édité chaque mois par Jacques Frigitte sur le site de l'ADEF, bénévolement. Jacques Frigitte, qui est au Conseil Général, ça s'appelait les ponts et chaussées, maintenant c'est le développement durable, c'est GEDD. Donc, ceux qui penseront mieux, les ex-anciens de l'équipement sauront mieux le dire. Il traite les données des notaires ainsi que des données de la DGI pour produire des courbes qui sont inscrites dans la longue durée. Donc c'est une actualité, mais inscrite dans l'histoire. Alors ce que vous voyez là, c'est une courbe qui remonte à 1850, donc qui montre les cycles immobiliers. On voit bien les couleurs, donc ça c'est très bien. Ce qui est en bleu, c'est Paris. Ce qui est en noir, c'est la France. Alors c'est aussi une question d'accès ou d'accessibilité de l'eau. C'est vrai que l'immobilier parisien est mieux connu depuis plus longtemps que l'immobilier national. Mais vous voyez que globalement, les évolutions sont à peu près les mêmes. Ce que je veux vous montrer, c'est on vient d'un crack. On me demande en ce moment, à peu près une fois par semaine, je fais une conférence sur « Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ?» Et foncier, qu'est-ce qu'il faut faire, l'acheter, pas l'acheter. Et alors pardon. Ce que je voulais vous montrer, c'est les cycles. Alors là, ça remonte à 1850, mais rappelez-vous, le rêve de Joseph, les vaches grasses, les vaches maigres. Le cycle, c'est vieux comme le monde, c'est vieux comme le monde marchand. Et il ne faut pas avoir peur des cycles pour commencer, c'est ce que je dis. Alors un cycle, un autre, là c'est la guerre de 14, hein, là je vous montre le cycle descendant puis remontant. Ça c'est juste avant, c'est de 35 à 44, là c'est après-guerre. Et après ça, il y a quelque chose qui est intéressant que Jacques Frigitte appelle le tunnel, qui est en fait le résultat d'une politique publique extrêmement affirmée sur les marchés immobiliers qui a réussi à mettre un corset sur des cycles, on le voit extrêmement bien je trouve sur cette courbe, sur des cycles immobiliers qui malgré le corset se sont malgré tout assez bien exprimés. Donc voilà, un enchaînement de cycles, n'ayons pas peur, ça arrive, c'est normal, la pensée économique est là pour nous aider à bien comprendre ce qui se joue. Alors, si on fait un zoom sur les années, depuis 1965, donc vous voyez que le tunnel qui est au début donc, du graphique, donc qui la valeur 1, c'est là vous avez l'indice du prix des logements ramené au revenu disponible des ménages. C'est une façon de regarder les cycles en lissant ça par rapport à la réalité du pouvoir d'achat des ménages. Donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ces cycles ont existé. Et puis, fin des 30 glorieuses, et premier pic, les années 90, que vous connaissez tous. À partir de 1980, alors les années 90, d'où ça vient, une des explications, c'est à partir de 86, libéralisation des marchés financiers, les banques se mettent à toutes à faire de l'immobilier, à faire des associations, évidemment, à financer des promoteurs, et il y a une grosse imprudence, ou en tout cas, les cycles économiques ont été un peu oubliés à l'époque, donc on a une arrivée massive d'argent sur des marchés immobiliers. Un phénomène spéculatif, lié à cette méconnaissance de cycle, qui arrive à son summum en 90, et après explosion de cette bulle, on arrive en 98, on retourne dans le fameux tunnel décrit par Jacques Frigitte. Cela dit, les choses n'allaient pas se perpétuer comme dans les Trente Glorieuses, et la montée, donc le cycle, est reparti de plus belle à partir de 98. Je vais donner quelques explications tout à l'heure, mais globalement, ce que vous voyez, c'est que on a, alors pas depuis 1870, mais il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de phénomène qui pourrait justifier qu'il y ait une telle hausse. On n'était pas dans une croissance économique inhabituelle. Par contre, on a vu une explosion des valeurs immobilières qu'on n'a pas connue depuis la guerre.
Oui.
Alors là, ce n'est pas le prix du logement, c'est un indice qui est rapporté aux revenus disponibles des ménages. Alors, si vous voulez le document complet, vous allez sur adef.org/statistiques au pluriel, ou même sur le site de l'ADEF, vous verrez, il y a un petit. Vous cliquez, vous trouverez ça très facilement. Il y a toute la publication, toutes les références. Et si vous cherchez à avoir des explications encore plus détaillées, je vous mets en contact avec Jacques Frigitte sans aucun problème. Pardon ? Non, d'accord.
La question était le 1, qu'est-ce qu'il représente ?
Le 1, c'est un indice de référence. En fait, c'est là, on mesure une évolution. On ne mesure pas des volumes, on mesure l'évolution.
Donc, en dessous du 1,
c'est-à-dire que le 1, on est sur un rapport de valeur qui est inférieur à celui qu'on a connu en valeur réelle en 65. D'accord ? C'est-à-dire que la valeur est en dessous de ce qui, de ce qui existait en 65. Alors, ce qui est original dans le nouveau cycle, d'abord c'est une montée de valeurs sans précédent, et puis on aura largement les commentaires cet après-midi avec la vous qualifiée Marc Le Borne, mais ce que je vous demande de regarder, c'est à l'intérieur de ces petits ronds. Ce que vous voyez, c'est une courbe rouge, une courbe rose, une courbe noire et une courbe bleue, respectivement Paris, Île-de-France, France et province, région. Et vous voyez que dans la montée des années et la descente des années 90, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que c'est surtout un phénomène parisien, alors que ce qu'on vient de vivre, c'est un phénomène national. C'est vraiment la caractéristique de l'évolution des marchés immobiliers en France, c'est que tout le territoire a été touché par ce phénomène de flambée des valeurs immobilières. Pour continuer sur la question des cycles, là je vous montre une autre courbe que nous publions normalement, enfin que nous republions maintenant chaque année, qui est ce qu'on appelle l'escargot de Joseph Combi, qui a eu l'idée de croiser les données des notaires parisiens avec, en abscisse, le nombre de transactions de logement par an, et en ordonnée, le prix de ces transactions. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que je vais prendre l'exemple de 90, donc 1987, libéralisation des marchés financiers, explosion des valeurs immobilières, on voit les valeurs augmenter avec aucune évolution du nombre de transactions. Comme le marché est plus ou moins bloqué, c'est que le volume ne peut pas répondre à la demande, forcément les prix augmentent. Et puis, 1990, ce qu'on a d'abord observé en 90, et ce qui a d'ailleurs beaucoup surpris les gens, mais quand vous utilisez cette courbe et que vous la suivez, vous pouvez avoir une idée de ce qui peut arriver à l'avenir, c'est qu'on a observé entre 89 et 90 un véritable coup de frein sur les volumes de transactions dans l'immobilier parisien, sachant que l'essentiel se fait dans l'ancien, évidemment. Et coup de frein qui s'est poursuivi entre 90 et 91, donc on a vraiment un recul du nombre de transactions. Et enfin en 91, à la suite de ce recul de transactions, on a une chute des prix qui est forcément, les gens ont gardé leurs biens en se disant est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, puisque on observe entre juillet 2007 et juillet 2008 moins 14% des volumes sur l'Île-de-France. Donc ça y est, la courbe pour l'instant on ne l'a pas représentée, mais vraisemblablement ça va ressembler à ça, et puis on peut imaginer la suite assez facilement. Donc, c'est un signe annonciateur. Et ce qui était tout à fait intéressant, c'est que ces retournements de volume, en fait, les opérateurs privés l'avaient largement anticipé depuis 2006. Il y a eu un recul, depuis 2006-2007, un recul du nombre de permis de construire déposés, tout à fait net, en 2007. Donc on savait que ça allait arriver, et les acteurs l'avaient anticipé. Alors, est-ce qu'ils l'ont accéléré en l'anticipant? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'en même temps, la Fédération des promoteurs, les professionnels disaient non, on va avoir un atterrissage en douceur. Enfin, on a eu des tas d'expressions, juste comme pour conjurer le sort. Et c'est ce qu'on vient de vivre au cours du dernier mois est caractéristique. C'est-à-dire qu'on croit qu'en faisant des injonctions, on va empêcher la catastrophe, mais le cycle, c'est toujours le cycle, et il y a des vaches maigres. Et quand on a fait des réserves pendant les périodes de vaches grasses, et ben on arrive à passer le cycle des vaches maigres. Et ça, c'est toujours comme ça. Donc aujourd'hui, le raisonnement économique est assez... C'est intéressant de voir que dans la presse, il fait paniquer tout le monde, et toute l'ambition, et ce que Vincent Renard, par exemple, promeut et développe comme discours, c'est à quand est-ce que les acteurs de l'immobilier, tout confondu, privé-public, auront enfin conscience que ce sont des acteurs d'un monde économique qui a ses règles du jeu et qui arrêteront de croire que l'économie, ce n'est pas pour eux. Voilà. C'est à quand le discours économique? Alors, juste pour finir sur les indicateurs, l'immobilier ancien à Paris, c'est x2,5 en 10 ans. Le terrain à bâtir, c'est quasiment les mêmes évolutions sur le national, x2,25, et voire même, c'est plus important que l'immobilier parisien, puisque c'est des multiplications par 3 dans les régions très attractives, comme Provence-Alpes-Côte d'Azur, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Et autre phénomène intéressant, alors c'est les maisons à la campagne, c'est x2,6 entre 1997 et 2007. C'est la SAFER qui publie ses données chaque année. Et ça, c'est caractéristique de ce qui s'est réellement passé au cours de cette montée sans précédent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a créé de l'argent. Alors, l'an dernier, quand je disais en conférence « il y a trop d'argent », ça a choqué beaucoup de monde. Aujourd'hui, les uns et les autres comprennent mieux ce que ça veut dire « trop d'argent ». Parce que le crack est clairement, on a compris que ces valeurs monétaires surproduites, aujourd'hui, la disparition est le signe que leur apparition était peut-être spéculative et vraisemblablement anormale par rapport au cycle économique habituel. Autre chose, c'est des fonds de pension américains qui étaient arrivés à maturité et qui cherchaient à se placer. Et on a vu sur le territoire national, des placements immobiliers, y compris, alors c'est là qu'on retrouve la courbe de tout à l'heure, dans la métropole bordelaise, on a vu des investisseurs, des fonds de pension, par exemple à Bordeaux ou à Marseille, on a vu des fonds de pension arriver à investir là où on n'aurait pas imaginé que ce soit possible il y a encore 10 ans. Ça, c'est cet argent qui est géré par les fonds de pension qui doit se placer dans des produits qui permettent de générer le revenu qui va permettre de financer la retraite des Américains. Troisième élément, on a acheté, explosion de la bulle immobilière en 1998, et puis privatisation, on achète de l'Eurotunnel, on achète de l'Euro Disney, on place son argent dans les start-up, et puis amince la bourse finalement. C'est un peu plus compliqué que ça, j'ai perdu des sous, mon banquier en plus en général m'a mal conseillé parce que le réseau bancaire était assez mal formé à ça. Cette défiance dans la bourse a ramené tout le volume d'argent qui était aux mains, qui était créé par l'épargne de la population française, vers quelque chose qui est, bon, même si ça perd de la valeur, au moins j'ai un truc matériel que je peux aller voir sur le terrain. Mais alors, élément multiplicateur, c'est des politiques fiscales qui, voyant l'explosion de la bulle immobilière, cherchent absolument à relancer le BTP. Les produits défiscalisés se multiplient. Et là, on ne va même plus voir le bien qu'on place, puisque de toute façon, ce qu'on cherche, c'est le cadeau fiscal, c'est pas le bien immobilier. Donc tous ces phénomènes ont eu un effet démultiplicateur sur les prix immobiliers et la répartition de l'argent sur le territoire.
Et
Autre phénomène, évidemment, alors le prêt au zéro étant un des phénomènes. Donc ça, c'est sur le plan immobilier. Maintenant, je voudrais qu'on regarde ce qui s'est passé sur le plan foncier. Alors hélas, je ne vais pas pouvoir vous montrer toutes les courbes, les mêmes courbes, parce qu'on n'a pas encore la capacité de vous montrer l'évolution des prix fonciers. Parce que en fait, si les marchés immobiliers ont considérablement amélioré leur transparence au cours des 10 dernières années, parce que les notaires, les agents économiques, FNAIM et autres, se sont bien organisés pour produire des données, autant sur le foncier, on est dans le brouillard, dans le noir, enfin ce que vous voulez, mais on n'a aucune idée de la réalité des valeurs. On a des dires d'experts. Alors les dires d'experts, vous pouvez les trouver sur le site du Crédit Foncier qui vend ces données maintenant parce qu'ils ont réalisé que c'était à peu près tout ce qui existait sur le marché, donc ça s'achète. Ce sont des dires d'experts, c'est-à-dire à partir des dossiers qu'ils instruisent, des dossiers financiers, on leur dit voilà la valeur de la charge foncière dans telle agglomération, c'est tant. Et quand on regarde dans le temps, sur un très long temps, c'est très intéressant, mais la valeur en soi, entre 800 et 1000 euros, on ne peut pas vraiment avoir un détail par îlot et l'information est très très faible. Donc simplement, ce que je voulais vous montrer, c'est la mécanique de l'immobilier foncier, parce que ça nous dit ce qui s'est passé, au moins dans l'idée, ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années. Alors, le compte à rebours du promoteur, je ne sais pas si vous êtes tous à l'aise avec cette idée, je me proposais de vous le réexpliquer parce que ce que j'ai constaté, c'est que c'est le degré zéro du raisonnement économique, c'est d'abord de savoir comment un agent économique qui a du pouvoir d'investissement sur les marchés immobiliers raisonne. Alors comment raisonne-t-il ? Dans les collectivités publiques, ce qu'on constate, c'est que ce raisonnement est assez peu maîtrisé. Alors, le promoteur, lui, c'est un agent économique dont le métier est quoi ? C'est de vendre du mètre carré. C'est son seul métier. C'est pas d'acheter des terrains, c'est pas de construire, c'est de vendre du mètre carré. Voilà, comme un producteur de livres va vendre des livres, et puis si les livres sont pas vendus, il va les détruire, ben le promoteur, lui, il vend du mètre carré. Donc, il va commencer par partir d'un raisonnement qui est « quel est mon chiffre d'affaires sur le terrain, ce terrain que je veux construire ?» Alors, avec un COS de 0,5, il va commencer par dire, voilà, je pense que je vais pouvoir construire X mètres carrés sur ce terrain. La première chose qu'il va faire, c'est vérifier que c'est garder mettre de côté ce qui lui permet d'exister, c'est-à-dire la marge brute. La marge brute, c'est un mélange de frais de fonctionnement, taux d'intérêt, frais de commercialisation et marge nette, c'est-à-dire ce qui fait que les actionnaires reconduisent leur confiance auprès de l'opérateur qui est le promoteur et acceptent de mettre de l'argent parce qu'ils sont rémunérés. Deuxième élément qu'on déduit, c'est forcément les coûts de construction parce qu'il faut quand même construire ces mètres carrés. Et au cours des 10 dernières années, on a vu une certaine augmentation, on verra tout à l'heure dans quelle proportion. On va également, normalement, quand on arrive sur un terrain constructible, on sait à peu près ce qu'on va payer comme taxe et comme participation. Donc le promoteur va déduire ses taxes. Il va par ailleurs déduire les coûts de viabilisation, branchement à l'égout, éventuellement des pollutions, petites dépollutions s'il y en a. Et ce qui reste, c'est ça, c'est le foncier et cette donnée de base, c'est que le foncier, c'est ce qui reste à la fin du raisonnement au compte à rebours du promoteur. Alors maintenant, une simulation, c'est... Alors oui, ce que je vous ai... Alors ce qu'on appelle la charge foncière, c'est la somme du foncier, de la viabilisation et des taxes. En général, c'est ce qu'on vend en ZAC, par exemple, c'est le cumul de tout ça. Doublons le COS. Donc on double la colonne. La marge brute, il y a des règles, c'est 30% pour que ça soit viable, elle double. La construction, on peut construire deux fois plus, on double. Les taxes et participations, elles sont... Ah, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Oui, alors, je fais un raisonnement, on va dire, toutes choses est égales par ailleurs. J'ai une ABAC qui va montrer qu'il y a effectivement quelques modulations. Ça ne coûte pas forcément deux fois... Non, ça ne coûte pas deux fois plus cher, sauf si vous construisez, par exemple, deux maisons. au lieu d'une. Là, ça coûte deux fois plus cher. Par contre, si vous montez de deux étages à quatre étages, ça ne coûte pas plus cher. Parfois, ça coûte beaucoup plus cher de monter à quatre étages parce qu'en fait, vous devez aller plus en profondeur, faire des fondations spéciales, etc. Donc, les rapports en coût de construction ne sont pas aussi simples que ce que je montre là, mais là, je simplifie, on va dire, deux maisons sur un terrain. Les taxes et participations, elles sont proportionnelles au nombre de mètres carrés, puisque c'est la chaîne qui donne lieu à des participations, donc elles doublent. La viabilisation est moins coûteuse, puisque le nombre de branchements, on multiplie pas par deux les coûts de viabilisation. Et donc, ce qui reste pour le foncier, déjà là, si on double le cost, ça va augmenter le foncier, ça peut au mieux le doubler, et au mieux pour le propriétaire, on a des rapports le simple changement de densité va faire exploser le prix du foncier. Ce compte à rebours, ce raisonnement-là, alors doublement de cost, ça, quand on change une densité, et quand on est une collectivité, c'est bien de l'avoir à l'esprit, ne serait-ce que pour pouvoir éventuellement caler le niveau de taxe. C'est-à-dire, on se dit, on fait plus de mètres carrés, donc on a peut-être intérêt, sur des volumes plus importants, à créer un plan de financement qui va permettre de récupérer une partie du... C'est une première façon de réguler, entre guillemets, le marché foncier, c'est d'augmenter le niveau de participation, parce qu'on considère que les besoins des habitants qui vont occuper ces mètres carrés sont plus importants que si c'était moins de mètres carrés. Donc, déjà, c'est une façon de baisser la valeur du foncier. Alors, quand on parle d'effet de levier de l'immobilier sur le foncier, c'est encore un autre phénomène qui se passe. C'est pas forcément un doublement de densité, mais à densité constante. Ce qu'on sait, c'est que... alors, ce que vous avez comme AVAC, c'est une AVAC qui a été produite par le trésorier de l'ADEF, Arnaud Bouteille, qui organise des financements pour des petites structures de promotion immobilière. Et il a eu la gentillesse de mettre à notre disposition le raisonnement, la BAC, qui permet aux promoteurs de raisonner. Alors, le coût des travaux, voilà, là on a une évolution entre 800 et 1400, suivant la configuration physique, les différentes caractéristiques du bâtiment, on a une évolution des coûts de production. Donc, le coût de production des travaux en haut de colonne, et ce que vous avez là en ligne, c'est les valeurs immobilières. Et ce que vous voyez, c'est que, par exemple, pour un coût de travaux de 1200 euros le mètre carré, un promoteur qui pense qu'il ne peut pas vendre à plus de 2000 euros le mètre carré de constructible, il ne va pas acheter son terrain, puisqu'il n'a même pas de quoi acheter son terrain, puisque c'est une valeur négative. S'il se dit « je parie sur l'avenir et je pense pouvoir vendre » à 3000 euros le mètre carré, là, il peut consacrer un peu plus à son terrain, donc 467. Maintenant, imaginez l'étape d'après. C'est, il se dit, je vends à 5000, et vous voyez que entre 2000 et 5000, il multiplie la mise, ou même entre 2200 et 5000, c'est-à-dire avec un doublement du prix de vente, il va multiplier son prix du foncier par 10 presque, un peu moins de 10, 8. Alors ce phénomène, on l'a observé, là, je vous donne des chiffres qui ont été donnés par un opérateur à Tours. En 2000, prix du mètre carré en centre de Tours pour un promoteur, c'est 1300 euros de vente le mètre carré. Avec un coût de production à l'époque de 750 euros, une marge brute qui est en gros de 30%. Ce qui restait pour le foncier, c'était 200. Doublement des prix entre 2000 et 2007 sur l'agglomération Tourangelle, dans le cœur donc de la ville. On a eu une augmentation des coûts de construction, comme je vous le disais, c'est-à-dire que le BTP, voyant, face à une demande très forte, et puis voyant qu'il y avait des possibilités de marge, a également augmenté ses propres coûts de production. Donc on a eu une petite captation de la marge par l'industrie du BTP. Là, sur cet exemple-là, l'opérateur n'a pas augmenté sa marge. Il a doublé comme le prix de vente, donc il reste à 30%. Et en revanche, la conséquence directe, c'est que le prix du foncier, lui, a triplé. Donc aujourd'hui, dans l'esprit des propriétaires, qu'est-ce qui se passe? Ils ont un terrain, les propriétaires qui ont pu être démarchés par ce promoteur et que l'opération n'est pas sortie, par exemple, eh bien, dans l'esprit du propriétaire, aujourd'hui, le terrain, il vaut 600, il ne vaut pas 200. Alors, pour le convaincre de renoncer à ce prix-là, il va falloir un certain temps. Parce que la valeur vénale, faciale, est ce qui compte le plus dans l'esprit d'un propriétaire foncier. On l'a vu avec Eric, c'est vrai que c'est logique, ça a cette valeur, c'est normal, c'est à cette valeur que je vais vendre. Donc je vais garder mon terrain en attendant que la tempête passe. Et ça s'appelle l'effet de cliquer. Donc cet effet de levier qui est plus que proportionnel dans un sens, dans l'autre sens, n'est pas plus que proportionnel, c'est même le contraire. Et en moyenne, suivant les taux d'inflation, puisque c'est la valeur faciale qui compte, si on a une inflation très forte, cet effet-là est peut-être un peu plus rapide de baisse du foncier, mais il y a un décalage entre 2, 4, voire 5 ans, suivant du montant de l'inflation, suivant le moment, et de l'attitude des pouvoirs publics sur la question du foncier. Et c'est là... le point du débat aujourd'hui, c'est que doivent faire les pouvoirs publics aujourd'hui en considérant ce phénomène de rétention foncière et le phénomène de l'effet de cliquet, la multiplication de la création d'établissements publics fonciers qui se sont créés justement en haut de la bulle. Un phénomène est tout à fait frappant, c'est qu'il n'y a de crise du foncier que quand on est en haut du cycle. Et quand on est en bas, il n'y a plus de crise foncière. Donc, le problème, c'est que c'est des politiques publiques qui se mettent en place sans avoir anticipé, sans être même consciente du moment où elles se mettent en place, du moment dans le cycle économique. Alors, juste pour votre information, la même agglomération, mais cette fois-ci dans le périurbain, pour un peu raccrocher à ce que racontait Eric Charme. Dans le périurbain, il n'y a pas vraiment de concurrence entre les promoteurs, donc qu'est-ce qui s'est entre les aménageurs, donc qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a suffisamment de place pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas vu une explosion du prix du foncier qui a plutôt évolué parallèlement au prix des lots. Par contre, on a une explosion des marges. Et là, vous avez une marge qui passe de 5 ans. Même dans certains secteurs, les marges sont passées de 40 à 70%. Les lotisseurs s'en sont mis plein les poches. Très bien. C'est pas de leur faute si on n'a pas su récupérer cette marge. Si les collectivités n'ont pas su établir des niveaux de participation qui auraient permis de faire baisser ces marges-là. Il y a du pouvoir, la collectivité publique a du pouvoir sur cette gestion des marges, et dire que c'est de la faute aux professionnels, à mon avis, n'est pas le bon raisonnement, parce que les professionnels, eh ben, ils sont logiques, quand il y a de l'argent, ils vont le prendre là où ils sont. C'est une société commerciale, si elle fait 3 années du déficit, elle ferme. Donc faire du bénéfice, c'est congénital à l'existence d'une structure économique.